encore de 2022, Michel Bonnet. Bonjour à tous et à toutes, surtout puisqu'on parle des femmes en particulier en ce moment, donc il faut s'adresser aux dames. Et nous avons parlé de Mélusine, nous avons parlé de Jeanne, la maman de Raymond VII, nous avons parlé de Blanche de Castille à l'occasion du traité de Paris et de tout ce qui s'est passé. Et on va continuer, je vous propose que l'on continue encore dans cette émission et même dans la suivante de parler des femmes, mais de façon plus générale, je voudrais évoquer les deux catégories de femmes que Raymond VII a rencontrées en permanence, et ce sont les femmes de l'aristocratie occitane du temps de Raymond VII. Qu'est-ce que c'est que ces femmes de la, tout à fait particulier, c'est très très particulier. Et donc ça, c'est un groupe de femmes, et ce dont on va parler aujourd'hui, et à l'intérieur de ce groupe des femmes aristocrates de l'Occitanie, il y a des femmes qui sont mises à part par l'Église, etc., et que nous, on a l'habitude d'appeler des cathares. Donc les femmes cathares. Mais j'aime pas du tout le titre des femmes cathares, mais pour l'instant, c'est pas grave, laissons ça de côté. Donc aujourd'hui, on va parler des femmes qui forment l'aristocratie, disons, dans le midi de la France. Il faut nous rappeler une chose, c'est qu'on est dans un système féodal, qui est un système pyramidal, où tout en haut, il y a le seigneur, le roi, le suzerain, les vassaux, les comtes, les vicomtes, etc., etc., etc. Et toute la société, cette société féodale, donc, est sous une forme de pyramide, ce qui veut dire que le pouvoir, au sens large du mot, le pouvoir politique, le pouvoir judiciaire, le pouvoir économique, etc., etc., plus on est en haut de l'échelle, plus il est costaud, évidemment, et plus on descend, plus il s'effrite, en quelque sorte. Et c'est tout doucement, et quand on arrive au bas de l'échelle, alors là, il n'y a aucun pouvoir. Il reste les esclaves, les serfs, vous voyez. Et donc, ça, on est habitué à ça. Mais on est habitué à le penser chez les hommes. Et chez les femmes, c'est la même chose. Elles vivent dans la féodalité. Elles vivent dans le monde féodal et donc elles sont influencées par ce monde-là, même si c'est le monde des hommes. Et ça se marque d'une façon particulière quand certaines femmes sont les épouses de seigneurs, donc d'aristocrates, pour aller vite. Le mot aristocratie, c'est un mot très large, prenons-le au sens très large du mot, quoi. Ces seigneurs qui sont habituellement des vassaux d'un suzerain, quoi. Mais dans ces seigneurs, donc, il y en a qui sont plus importants que d'autres. Et on ne va pas confondre le comte de Toulouse avec le seigneur de la Bastide de Lévis, par exemple, ou d'autres choses comme ça, quoi. Et il y a des grands seigneurs, il y a des seigneurs beaucoup moins importants. Et donc, chez les femmes également, parce qu'elles sont les épouses de seigneurs qui sont plus ou moins importants, elles sont elles aussi est plus ou moins importante. Et donc, il y a là quelque chose qui les différencie fondamentalement du reste des autres femmes. Et ça, on a du mal à s'en rendre compte. Il faudrait peut-être, aujourd'hui, un peu, quelquefois, quand on voit des titres, Monsieur et Madame de la Vigerie, ou Monsieur et Madame de la Rochefoucauld, Madame de Sévigné, ces noms à particules, ça nous rappelle un peu la noblesse, et ça nous fait croire que ces gens sont à part, ou effectivement, il y a eu des époques où ils étaient à part, mais c'est pas parce qu'on a une particule à son nom, je parle d'aujourd'hui, par exemple, que on est totalement riche, puissant et tout le reste. Il y a des monsieur et des madame de quelque chose qui sont dans la misère noire, qui ont que le nom pour se consoler, vous voyez. Et puis il y en a d'autres qui vivent au travail comme d'autres, et puis il y en a qui sont patrons d'entreprises du CAC 40 ou des choses comme ça, quoi. Donc il y a une très grande différence, Mais cette différence, elle est basée sur, d'abord sur des différences de pouvoir. Hein. La femme aristocrate ou la femme d'un aristocrate, la femme d'un seigneur, pour employer plutôt un mot du médiéval, quoi. La femme d'un seigneur, c'est d'abord qu'elle est liée à quelqu'un qui a un pouvoir, et c'est essentiellement un pouvoir qui descend du suzerain, bien sûr, mais c'est un pouvoir sur la guerre. Il peut porter des armes et il peut rassembler une armée, plus ou moins importante, bien sûr, ça c'est secondaire, hein, mais il peut aller se battre avec quelqu'un, il peut être appelé à aller se battre. Bien, c'est un chef guerrier. Il y a là un pouvoir qui est finalement un pouvoir, le pouvoir militaire, c'est un pouvoir politique, parce que le militaire dépend du politique, hein, surtout à cette époque. Donc il y a ça. Il y a ce pouvoir politique, mais il y a un autre aspect du pouvoir politique, c'est le pouvoir judiciaire. C'est-à-dire que le comte ou le roi a confié à un seigneur la charge de rendre la justice sur les populations du territoire où il habite. Bon, le seigneur de Saint-Marcel est chargé de surveiller toutes les difficultés qu'il y a entre les paysans, entre les commerçants, les artisans, les voyageurs, les résidents, etc. Bref, tout ce qui peut se... les difficultés, parce qu'un tel, il m'a volé ceci, un tel, j'ai eu un accident, c'est la faute d'un tel, j'ai besoin de réparation. Là, j'ai un pont qui s'est écroulé, mais c'est la faute à ceci ou à cela. Donc, il y a toujours constamment des procès. Et autrefois, peut-être encore plus qu'aujourd'hui, j'en sais rien, on ne va pas comparer, mais il y a toujours des procès en pagaille, et donc il y a des hommes qui ont la charge de juger. Et ça fait partie du seigneur, c'est une marque de l'aristocratie de l'époque. Et ça, c'est important parce que les femmes participent à ce pouvoir judiciaire, même si ce ne sont pas elles qui rend de la justice, bien sûr, mais tout le monde sait que c'est le mari qui rend la justice. Donc, il y a cet aspect-là. Le troisième aspect, tout le monde sait, je ne vais pas en parler longtemps, c'est les taxes, la fiscalité, le pouvoir fiscal, et le seigneur est là pour faire remonter l'argent qui sort de la sueur des travailleurs. Hein. Ça, c'est clair. Voilà, donc, un monde à part à cause d'un problème de pouvoir. On s'arrête quelques minutes.
Non mais ton gauche, mais non mais ton place Sainte-Anne devant paix l'éternel y est sacrifié et on rêve. Non mais ton gauche, mais devant la Vierge Marie non tournait Sainte-Anne ta grâce y est tout founé et on rêve. Non mais ton gauche, mais vous m'enseignez qui ou la cathédrale devant t'y est tout puissant. Yo chante et gagne une messe. Yo rêve. Parler avec Sultan. Nan mi tan goshi men nan kondol nan mwa kome siltan yo kreve ke yo rev. Nan mi tan goshi men jou krive nan glosi mi diye kome siltan mwa man yo detere yo Moi
FM, l'esprit rock.
Corde 2022, Michel Bonnet. Nous continuons à réfléchir donc sur ces femmes de l'aristocratie médiévale, occitane, et je disais donc le pouvoir politique, judiciaire, etc., militaire, le pouvoir fiscal qui est la marque des seigneurs, est plus ou moins rejailli sur les femmes, puisque elles sont les épouses, et donc elles savent comment la vie se passe. Mais ce dont il faut se rendre compte immédiatement, il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une différence énorme entre les femmes de la haute aristocratie et les femmes aristocrates ordinaires, je dirais, en quelque sorte. Ça ne veut pas dire des simples travailleuses ou paysannes, non, elles sont aristocrates. Mais il se passe en Occitanie, à la différence de la France du Nord, en Occitanie, il y a une chose, c'est que, au moins jusqu'à l'époque de Raymond VII, mais ça va changer petit à petit au XIIe siècle, mais dans le problème d'héritage, on n'a pas le droit d'aînesse. C'est-à-dire que le père, quand il meurt, il divise son héritage entre les garçons. Les filles, on leur donne habituellement une dot, et ça clôt le problème. Quelquefois, elles ont droit à une part d'héritage, mais c'est très rare. Mais selon le droit habituel du Midi, ce n'est pas le cas, elles ne participent pas à l'héritage. Mais les hommes y participent. Or, dans une famille, vous imaginez, bon, ben, tout le monde comprend très bien, quoi. Et j'ai 50 hectares, j'ai 3 enfants, il faut que je partage les 50 hectares dans les 3 garçons. S'il y a 3 garçons. Ou bien j'ai 2 maisons et un champ, je partage ça en 3, il y en a un qui aura la maison A, la maison B, le champ, et puis terminé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand c'est du matériel, quand c'est de la richesse purement et simplement matérielle, c'est bien. Mais dans l'héritage, il y a le pouvoir que je possède, moi en tant que seigneur, je parle du point de vue du père qui est en train de rendre l'âme, si on peut dire, il y a mon pouvoir politique, mon pouvoir militaire, le pouvoir de rassembler des guerriers, le pouvoir de faire payer l'impôt aux gens qui sont sur mon territoire, le pouvoir de rendre la justice et donc de récupérer de l'argent, parce que tout jugement, il faut bien sûr le payer d'une façon ou d'une autre. Et donc, vous voyez de suite que ce problème du pouvoir est lui aussi divisé. Et lorsqu'on va se retrouver avec 3 garçons qui doivent se partager le pouvoir sur, mettons, la Barthe-Blaise, par exemple, un village comme la Barthe-Blaise, ils vont avoir un seul château à l'intérieur, la grosse maison qu'on peut voir à la Barthe-Blaise, même encore en ce moment, il n'y a que des restes, mais enfin, bref, il y a là une grande maison, un donjon avec un étage, et à chaque étage, il y a une famille différente. Ce sont tous des parents, des frères, mais qui se sont divisés, et qui n'étaient pas assez riches pour se faire chacun un château. Donc, ils vivaient 3 seigneurs dans le même château. Et chacun avait une partie des jugements, une partie de la fiscalité, tous ces pouvoirs dont on parle, ils se le partageaient entre eux. Donc, il y avait un effritement. Vous voyez, un effritement. Et pour la richesse matérielle qui en sortait, qui était liée à ce pouvoir, c'est la même chose. Petit à petit, tous se restreignaient, et de grands seigneurs, au bout de 50 ans, au bout de 2-3 générations, on est devenu un petit rien du tout qui tirait le diable par la queue. Voilà, et les femmes, ça c'est un problème de la famille. Hein, la femme, elle suit son mari, s'il est plein aux as, tant mieux, s'il n'a plus rien, il faut qu'elle trouve une solution, quoi. Et donc, dans les femmes aristocrates, de cette époque-là, il y a une très grande différence entre la haute aristocratie et les seigneurs, les femmes de seigneurs qui sont dans les villages dispersés un peu partout, qui forment la grande masse de l'aristocratie féminine. Et c'est les grands seigneurs, ils sont pas si nombreux que ça. Et la vie des grands seigneurs, nous la connaissons assez bien, la vie des femmes de l'aristocratie, parce que c'est celle que nous font connaître les troubadours. on en a déjà parlé, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais dans ce monde des troubadours, ce monde que l'on connaît à travers les troubadours, à travers les chansons, les poésies, etc., c'est le monde de l'amour courtois. C'est un monde un peu particulier où la femme a une place particulière, la dame. On la drague, on essaie d'avoir ses faveurs, on essaie de la conquérir. Bref, il y a tout un système de relations entre les seigneurs et les femmes, entre les chevaliers et la dame, etc. Ça c'est, on le connaît. Il faut pas appliquer ça tel quel aux femmes de la petite aristocratie qui sont obligées de se faire la cuisine comme elles peuvent, qui font de la laine, qui tissent de temps en temps un morceau de toile pour s'en sortir. Enfin bref, les femmes de la petite aristocratie ont une vie qui est quand même pas le décalque exact de celle des troubadours. Et cette place de la femme dans la société, qu'elle soit dans la haute aristocratie ou dans l'aristocratie, disons, de bas étage, en quelque sorte, elle était très importante dans la marche du pays, au point que Simone Montfort s'en est occupée spécialement. Et là, c'est intéressant parce que dès 1212, donc assez rapidement après qu'il soit arrivé, c'est avant la bataille de Muret où les Toulousains et le roi d'Aragon Pierre II d'Aragon s'est fait trucider. Vous voyez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a émis ce qu'on appelle les statuts de Pamiers. C'est-à-dire qu'il a décidé que le droit habituel, le droit romain, le droit coutumier du Midi, de la France, de l'Occitanie, enfin du comté de Toulouse pour aller vite, était caduque. Et il en a refait un autre complètement différent. Enfin, complètement, enfin. Très, très différent. Et un autre qui est calqué, en fait, sur le droit du Nord, le droit de l'île de France, puisque lui, c'est un grand seigneur de l'île de France, Simon de Montfort. Et dans ces statuts de Pamiers, qui posent des tas et des tas de problèmes, il y a un article, c'est le dernier d'ailleurs, presque le plus important, si on peut dire, le numéro 46. Je vais vous le lire parce que c'est assez effarant, mais ça montre en même temps la place que Simon de Montfort accordait aux femmes de l'aristocratie médiévale. Je lis. Bon, évidemment, c'était pas en français, c'était en latin, mais enfin, après en occitan, mais peu importe. La traduction. Nous interdisons à toutes les femmes nobles, veuves ou héritières, possédant forteresse ou château, d'épouser d'ici à 10 ans un indigène de cette terre sans l'autorisation du comte, afin d'éviter le péril qui pourrait en advenir à la dite terre. Elles pourront épouser des Français de leur gré et sans demander l'autorisation du comte ou d'un autre. Les 10 ans passés, elles pourront se marier comme elles voudront. Vous vous rendez compte? Il décide que les femmes occitanes n'auront plus la permission pendant 10 ans, parce que dans 10 ans, après, on ne sait pas ce qui va se passer, quoi. Hein. Donc là, toutes les femmes occitanes un peu nobles n'ont plus le droit de se marier avec un seigneur d'Occitanie. Ça casse complètement, non seulement les habitudes, mais toute la structure féodale du pays. Oui. Et ça, on a du mal, peut-être, quand on le lit comme ça, à s'en rendre compte, mais c'est absolument capital. Il n'y a pas que ça, bien sûr, dans les statuts de Pamiers, mais cet article 46 nous montre à quel point l'aristocratie féminine en Occitanie était extrêmement importante.
Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I ain't got nobody just to call my special friend. You know, the first time I traveled out in the rain and snow, I first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. Oh, I didn't have no payroll, not even no place to go.
Michel Bonnet. Nous abordions donc la question des femmes nobles à partir des statuts de Pamiers émis par Simone Montfort en 1212 et qui ont fait du bruit, évidemment, d'autant plus qu'il n'avait pas le droit de le faire. Mais enfin, ça, c'est une autre question. Il était le maître puisqu'il était le plus fort. Et donc, il transforme la situation des femmes pour la mettre à son service, c'est-à-dire au service d'une colonisation, pour aller vite, par les seigneurs du Nord, des terres du comté de Toulouse, ou des terres du Sud. Ce qui nous dit, rend difficile la découverte de ces femmes de l'aristocratie médiévale, c'est que on confond très souvent ces femmes-là avec les femmes cathares. On les met, toutes les femmes, on les met toutes dans le même sac, si on peut dire. Or, les femmes nobles qui sont devenues cathares, ce n'est qu'une petite partie des femmes aristocrates en général. Donc déjà, on n'a pas le droit de les mélanger. Et ce qu'on dit des femmes aristocrates cathares, on ne le dit pas forcément des femmes aristocrates en général. Par ailleurs, il y a beaucoup de femmes cathares qui n'étaient pas aristocrates aussi. Oui. Donc, il faut faire attention quand on parle des cathares ou on parle de la société du XIIIe siècle qui est dominée par la lutte albigeoise, la croisade albigeoise et la lutte contre les cathares. Il faut quand même faire attention à ne pas tout mélanger et à garder des différences parce que dans la vie, elles étaient différentes. Alors, il y a pour voir de façon un peu plus proche, en laissant de côté complètement l'aspect religieux qui concerne l'hérésie, les cathares, dont on parlera dans la prochaine émission, parlons uniquement de la situation des femmes aristocrates, donc des femmes, des petits seigneurs qui sont dans les villages un peu partout, à droite, à gauche. Elles ont un trait particulier, ces femmes-là, c'est parce qu'elles se sont mariées avec, elles ont été mariées avec un seigneur, c'est pas la bergère du coin. Elles ont reçu une éducation particulière, si on peut dire, depuis leur enfance, une éducation qui leur apprend les règles du milieu aristocratique. Le seigneur de Mouziès-Panès, quand il sait qu'il va essayer de marier, quand il a une fille et qu'il sait qu'il faudra qu'il la marie, sa femme, évidemment, c'est le boulot de sa femme, elle va éduquer sa fille de façon à ce qu'on puisse la présenter au seigneur de Virac ou de Castelnau de Lévis. Hein. Et vous voyez, donc, il y a une éducation de façon à être une bonne épouse d'un seigneur, de faire ce qu'il faut, éventuellement de savoir comment gérer une seigneurie ou une partie d'une seigneurie. On lui apprend ses droits en tant que femme, parce que en tant que femme aristocrate, elle a des droits que n'ont pas les femmes ordinaires, reconnus par la loi. Elle a droit à avoir une dot qui lui appartienne, qui n'appartient pas à son mari, qui appartiendra à ses héritiers, à sa mort. Par exemple, on en a parlé à l'occasion de la mort de Jeanne et de l'héritage de Jeanne passant entre les mains de Raymond VII. Et donc, elle a le pouvoir d'hériter aussi un peu quand elles sont veuves. En particulier, elles ont des droits que n'ont pas les femmes ordinaires. Donc, elles reçoivent une éducation assez particulière qui les fait réfléchir, évidemment. Tout est basé là-dessus, l'éducation. On ne leur apprend pas d'abord à travailler avec les mains, à bêcher un champ, à planter du millet ou du seigle, à savoir traire une vache ou une brebis. Vous voyez, c'est les domestiques, ce sont les femmes travailleuses, les paysannes à qui on apprend ça. Les femmes qui sont destinées à un mariage, elles ont une autre éducation. Quelquefois, on leur apprend à lire, ou on leur apprend au moins par cœur des textes, soit des histoires, des contes, des chansons, des poésies. Ça fait bien dans une réunion de connaître une poésie, un chant, surtout si on sait d'où ça vient. Et puis des textes religieux aussi, parce que c'est fondamental. On ne peut pas imaginer de ne pas avoir une éducation religieuse chrétienne. Donc il y a des textes que l'on connaît. On n'a pas le droit. Elle est interdite aux laïcs de lire la Bible. Et elle interdit qu'on mette la Bible à disposition des laïcs. Mais elle leur donne des bouts. Une phrase par-ci, par-là, ou le récit d'un miracle de Jésus, le récit de la passion de Jésus, le récit du dernier repas de Jésus, vous voyez, des choses comme ça. Et ces femmes-là, elles l'apprennent, et donc ça leur donne des sujets de réflexion, de méditation, de discussion aussi, et parce qu'elles réfléchissent, elles peuvent avoir leur mot à dire. Et surtout, ce qu'il y a dans cette éducation, c'est que, je l'ai expliqué dans une autre émission au sujet de Jeanne d'Angleterre, quoi. L'éducation, ça consiste essentiellement à leur faire connaître l'histoire de leur famille, l'histoire du lignage, l'histoire des habitudes de la famille, de la leur, mais aussi des seigneurs des environs, parce qu'ils sont liés les uns aux autres, et elle, elle a des chances d'être mariée avec un seigneur des environs. Elles partent pas là-bas en Suède ou au fin fond de l'Italie, sauf la grande aristocratie. Mais la petite aristocratie, c'est ici. Et d'ailleurs, on le voit quand on peut faire des généalogies. Et il y a des experts qui passent leur temps à ça, à essayer de faire la généalogie de ces petites familles aristocratiques médiévales d'Occitanie. On s'aperçoit qu'elles sont très, très, très liées sur le territoire. Entre ici, Castelnau de Lévis, Gaillac, Tonac, vous voyez, tout ça. Tous ces gens-là, ils se mélangent. Et ils se mélangent par les femmes, par les mariages entre les femmes. On échange des terrains à cause de ça, et ainsi de suite. Et donc, ça, c'est ces liens, vous voyez, ces liens entre ces familles sont très importants. D'autant plus que ces femmes ont une habitude, c'est peut-être une nécessité, c'est qu'elles vivent beaucoup entre elles. Dans la même maison, on a facilement 3, 4, 5 femmes. C'est pas des grandes, c'est pas des couvents, hein, dans le... non, c'est une femme d'un seigneur, mais comme le seigneur, très souvent, il est à moitié du temps dehors, que ce soit pour aller à la chasse, pour se battre, ou d'autres, enfin, pour aller voir son suzerain, ou des choses comme ça, quoi. Bref, les femmes ont pris l'habitude, ont cette habitude dans le midi, de vivre ensemble, pendant un mois, deux mois, trois mois, pas beaucoup plus, quelques fois plus, mais habituellement, c'est temporaire. Mais elles mangent ensemble, elles vivent ensemble, elles causent, etc. Et surtout, elles éduquent leurs filles. Au début, les garçons, mais quand les garçons ont grandi, qu'ils ont 6 ans, 7 ans, on les met entre les mains des hommes. Mais les filles, jusqu'à la puberté, il faut les garder. Et on les éduque. Et le but de cette vie en commun de beaucoup de femmes de l'aristocratie, c'est justement de pouvoir éduquer leurs filles en les protégeant. Et cet aspect-là est extrêmement important, parce que c'est une éducation à faire attention aux hommes. Parce que c'est extrêmement violent. Les hommes sont violents, les hommes sont des violeurs, en plus, vous voyez. Et à cette époque-là, sortir seul, c'était pas évident. Aujourd'hui, des fois aussi, mais surtout à cette époque-là. Et donc, les filles doivent être préparées à ça. Elles sont éduquées à ça, à faire attention à la rencontre avec un homme, comment se protéger, et si on a été violé, qu'est-ce qu'on doit faire, et si on est enceinte, comment on peut avorter, ou comment on peut s'empêcher d'être enceinte. Toute cette éducation fondamentale de la fille, de la femme, qui n'est pas une éducation intellectuelle, vous voyez, et c'est la vie de tous les jours, c'est ça le plus important, c'est ça l'essentiel. Comment on réagit quand par rapport à un homme, que cet homme, ça soit son mari ou pas, voilà. Donc, cette éducation-là, qui implique, justement, pour les filles, de rester assez longtemps à l'intérieur d'une communauté familiale, d'une communauté féminine et familiale en même temps, et ça, c'est assez important. Et c'est un des points qui va rejaillir, on en reparlera sur le catharisme, parce que quand Saint-Dominique est venu en Languedoc pour essayer de convertir les hérétiques, il a découvert qu'un des problèmes importants pour les communautés, pour les populations un peu aristocratiques, ça m'étonnerait que Dominique, il parlait beaucoup avec les laboureurs du coin, vous voyez. Il parlait avec les gens qui avaient la patience de l'écouter, qui n'étaient pas éreintés de boulot et qui donc pouvaient l'écouter comme nous aujourd'hui, quoi. Quand je fais une conférence, je m'imagine bien que c'est pas la caissière de Leclerc qui a les reins abîmés, qui va venir à la conférence, il s'y accorde pour entendre baratiner sur Raymond VII, hein. Elle a autre chose à faire, hein. Mais bon, quand on a un peu le temps et qu'on est moins fatigué, on peut le faire. Et à cette époque-là, c'était pareil. Et Dominique s'était rendu compte que l'Église n'avait pas des communautés religieuses disponibles pour les femmes de l'aristocratie. Et c'est pour ça qu'il a fondé le monastère de Prouille, qui est le premier monastère, en quelque sorte, catholique, pour les femmes de l'aristocratie méridionale. Bon, on s'arrête un moment.
CFM.
Un homme, un con. J'ai fait l'amour.
J'ai fait l'amour sans un frisson. Incontestable. J'ai fait l'amour avec un con. Incontable. Pourquoi j'ai pas discuté? C'est trop con. Lire compte en addition. Et puis les moutons. Le temps de me dire à quoi bon. Et mon compte était bon. Pourquoi je l'ai pas poussé et hors de ma vue. Pourquoi je l'ai poussé dans mon lycée inconnu. Comment tu t'appelles déjà? Je sais plus, je sais pas. Comment tu t'appelles déjà? Je sais plus, je sais pas. J'ai fait l'amour à contre-cœur. Il m'a même pas embrassé. J'ai fait l'amour en regardant l'heure. Je suis consterné. Mais comment s'en sortir? Oui, oui, oui. Mon Dieu, fait qu'il se tire.
Corde 2022, Michel Bonnet. Je disais donc que les femmes de l'aristocratie avaient tendance à vivre ensemble. C'est un trait important, c'est un trait majeur. Et il y a une solidarité féminine et donc il y a une sagesse féminine qui s'est élaborée petit à petit. Et il y a des stratégies de protection, d'éducation, se donner un coup de main, etc., qui sont importantes. Cette solidarité-là est une marque des femmes aristocratiques occitanes. Il ne faut, faut pas l'oublier, et le catharisme ne l'oubliera pas, et l'Inquisition non plus ne l'oubliera pas. Et puis, il y a un deuxième aspect que je voudrais souligner. Vous comprenez bien que ces femmes, parce que ce sont des épouses de seigneurs qui ont un certain pouvoir, et parce qu'elles ont reçu une certaine éducation, et parce que quand même elles sont un tout petit peu, même si c'est pas beaucoup, mais un peu plus riches que les travailleurs ordinaires, elles ont une influence sur le milieu ambiant. Elles ont une influence d'abord sur les domestiques, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des domestiques, même si c'est une, deux, trois femmes, pas plus. Mais elles ont des gens qui travaillent pour elles. Elles ont des rapports avec les serfs ou avec les laboureurs ou avec les tisserands qui font partie de la, disons, des terres ou du territoire de la seigneurie de leur mari. Et elles, évidemment, elles ont des relations particulières avec les femmes de ces familles-là. Et ça se comprend, entre femmes, on se rend service, etc. Donc c'est pas une lutte à mort, faut pas imaginer ça avec les images de la lutte des classes où les riches cognent sans arrêt. C'est un autre univers, si on peut dire. Donc il y a des relations étroites entre les femmes de l'aristocratie et puis les femmes ordinaires qui travaillent, qui reçoivent ces ordres ou cette aide quelquefois, ou des fois ces punitions si on veut, mais elles ont là une influence assez importante. Et c'est important de penser à ça, parce que dans la mentalité du XIIIe siècle, le travail, ce n'est pas une caractéristique de l'individu. Aujourd'hui, quand tu veux dire « qui êtes-vous ? Je suis maçon, je suis ferblantier, je suis informaticien, enfin, il y a un métier qui... Le métier, la qualification professionnelle, en quelque sorte, machinalement, s'adresse à l'individu. Alors que, et au Moyen-Âge, c'était lié à la famille. C'est une famille qui est une famille de tisserands, c'est une famille qui est une famille de laboureurs, etc. Même si à l'intérieur de la famille, tout le monde ne fait pas le même travail. Mais d'une façon générale, l'homme et sa femme et ses enfants travaillent ensemble sur la même chose. Il y a une commande du Seigneur pour amener un tombereau de pierre à cordes depuis Mouziès-Panès. Eh bien, c'est une famille qui va être chargée de ce tombereau. Et c'est l'homme, la femme, ils vont casser les pierres, ils vont les charger, ils vont les amener. Ils se mettront à plusieurs familles s'il faut, bon, peu importe. Mais le point ici, nous, c'est cette place de la femme dans le travail. Elle travaille exactement avec son mari, comme son mari, et parfois, elles sont elles-mêmes maîtres de, par exemple, d'une boulangerie, d'un endroit où on fait le pain, d'un four à pain pour la communauté, etc. Enfin, elles ont cette relation au travail qui est une relation complètement différente d'aujourd'hui, où l'homme et la femme tendent à être, peut-être pas à égalité au sens où nous l'employons aujourd'hui, mais à être ensemble, insérés dans le même travail, avec la même responsabilité vis-à-vis du produit fini. Hein, voilà. Donc, c'est important parce que ces familles, ces femmes de l'aristocratie ont une influence à travers les femmes travailleuses sur l'ensemble du processus de travail, hein, et donc sur la vie sociale, vous voyez. Et n'oublions pas, elles ont aussi des relations en dehors du travail, pas tout à fait les relations de la courtoisie, de la haute aristocratie, mais des relations de voisinage. C'est-à-dire que le soir, on se retrouve en été devant la porte pour bavarder, l'hiver, on se trouve au coin du feu, et donc on est là, on est 2, 3, 4 familles, on est 10, 12 personnes ensemble à faire brûler des châtaignes ou à écosser du maïs, vous voyez, ou les petits pois, des choses comme ça, quoi. Et donc on parle, on le fait avec... en s'amusant, pour se faire plaisir, en chantant, en écoutant des poésies, même s'il n'y a pas des grands troubadours. Et surtout que dans ce milieu de travailleurs, ce milieu paysan, ce milieu artisan, etc., il y a tout un folklore qui est différent des chants des troubadours, différent de la culture des troubadours, la culture courtoise. C'est tout un folklore avec des contes, avec des fabliaux, on dirait les gens bien placés, une vulgarité, c'est sexué à 100% en permanence, vous voyez, les grosses blagues qu'on sort, on n'ose pas les lire en public, on n'oserait pas les lire à la radio ici, parce que tellement ça étonnerait de l'érotisme qui affleure dans tous les mots, etc. Et tout ça, cette culture-là, elle permet justement une sorte de, par osmose, une sorte de passage à la fois des dames aristocratiques vers la culture, vers le peuple, vers les gens ordinaires, et vice-versa. Et les femmes, les dames de l'aristocratie, elles se sentent responsables un peu là-dedans, de dire non, là, on dirait, nous, entre nous aujourd'hui, faut pas pousser, faut pas aller jusque-là. Non, ça, on n'a pas le droit de le dire. Dieu, non, on ne dit pas, ça touche le blasphème. Là, tu vas être obligé d'aller te confesser. Enfin, vous voyez, elles donnent des conseils, etc., quoi. Et donc, il y a toute une sorte de direction spirituelle. J'emploie un mot un peu trop fort, mais je le fais parce que je sais que la prochaine conférence, elle va parler que de ça. Elles vont donner des conseils pour la vie spirituelle au sens très large, et qui vont devenir des conseils pour la vie religieuse, parce que à cette époque-là, le spirituel et le religieux, c'était indissociable. Aujourd'hui, on a inventé la laïcité, et donc il y a le religieux, disons, public, communautaire, et puis il y a le religieux qui est le spirituel, ma façon à moi, personnelle, de vivre au fond de ma tête et de mon cœur, la rencontre avec le monde des esprits, si on peut dire, ou le monde de l'invisible, le monde des pouvoirs invisibles. Et donc vous voyez comment, tout doucement, vous sentez que quand l'Inquisition ou quand les seigneurs, les croisés vont arriver pour casser les reins à ce pouvoir qui embête l'Église, ils vont regarder le pouvoir qu'ont ces femmes. Parce que si quelqu'un peut se permettre de critiquer le curé du village, c'est pas le laboureur du coin, c'est pas la brave petite bergère, c'est la femme du Seigneur qui ira dire au curé, eh bien là, ce que vous avez dit à la messe, ça va pas. Ou bien l'argent que vous demandez pour tel enterrement, c'est trop, c'est pas au point. Des choses comme ça, vous voyez. Elles guident un peu. Elles ont donc une influence énorme, et c'est pour ça que, à travers elles, le catharisme va pouvoir se développer sur le midi de la France, beaucoup plus rapidement qu'ailleurs, à cause de cette place des femmes de l'aristocratie méridionale. Vous voyez donc que, autant il est important de... Il est très important d'accorder une place à la féodalité et au seigneur pour connaître l'histoire du Midi, mais il ne faut absolument pas oublier la place des femmes dans cette structure sociale. Et quand on parle de la place des femmes dans cette structure sociale, cette vie sociale, il faut les voir, celles qui ont le pouvoir, c'est-à-dire celles qui ont un certain pouvoir. Et donc les femmes de l'aristocratie par rapport aux femmes simplement travailleuses, parce que c'est vraiment différent. Et à l'intérieur de l'aristocratie, il faut aussi faire une différence entre la haute aristocratie, dont les femmes ont rarement été liées au catharisme, parce qu'elles savaient que c'était trop dangereux, et que les maris aussi savaient que ça serait trop dangereux de laisser faire. Mais les femmes de la petite aristocratie, elles auront une grosse importance pour justement la diffusion d'une certaine façon de vivre. Et ça, on en reparlera la prochaine fois, si Dieu nous prête de vue d'ici là, évidemment, mais on peut l'espérer. Je vous dis donc merci d'avoir écouté cette émission, et à la prochaine. C'était Cordes 2022 avec Michel Bonnet.
Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Now when I was a young boy, yeah, at the age of 5, my mother said I was gonna be the greatest man alive. But now I'm a man way past 21. I want you to believe me, baby, I have lots of fun. I'm a man. Yeah! I spell him H-I-N. That rubber thing, man. Yeah! No B. Woo! Oh, child. Man, sitting on the outside, just me and my mate. You know I made the moon, honey. Come up 2 hours late. Wasn't that a man? I spell him.
you man. The lion I shoot and will never miss. When I make love to a woman, she can't resist. I think I go down to old Kansas too. I'm gonna bring back my second cousin, that's little John the Conqueror. All you little girls setting out that line, I can make love to your woman in 5 minutes time. Ain't that a man?
CFM.
Normidie-Pyrénées.
Normidie-Pyrénées.
L'esprit rock.